Bonjour, bienvenue sur le podcast Enfin Libre de l'école Sudbury-Lilloise avec Cécile Procope. Épisode numéro 1. Vous écoutez Enfin Libre, le podcast d'une école où les élèves décident. Et si nous faisions confiance aux enfants? Et si les élèves pouvaient décider de leurs activités et faire ce qu'ils aiment? Et si les élèves étaient les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux? Et si les élèves pouvaient décider des règles de leur école? Venez avec nous dans les coulisses d'une école où les élèves décident. Alors aujourd'hui, le thème, c'est de parler des problèmes avec l'école. Alors pourquoi on commence avec ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu négatif, critique et tout ça, mais en fait, il faut être réaliste. Si on s'intéresse aux éducations alternatives, ou si on en est à envisager de scolariser son enfant dans une école alternative, ou même de créer une école alternative, c'est qu'on se dit bien que quelque part, le système éducatif actuel, il a certaines limites et certaines critiques qu'on peut formuler à son encontre. Le premier problème que je vois dans l'école actuellement, telle qu'elle est pensée à la base, c'est que en fait, on prend pas du tout en compte les centres d'intérêt des enfants. C'est-à-dire que, à l'école classique, les élèves, ils vont faire des activités qui sont déterminées pour le groupe, selon un horaire précis, selon un programme, et on prend pas du tout en compte l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire l'intérêt dans son centre, ses centres d'intérêt et son intérêt du moment. C'est-à-dire qu'il va faire des maths de telle heure à telle heure, il va faire du français de telle heure à telle heure, mais quel que soit finalement ce qui l'intéresse à ce moment-là, ce qui l'intéresse cette semaine-là, cette période-là de l'année, etc. Et tout ce contenu qu'il reçoit, en fait, c'est vraiment déterminé par son année de naissance et le trimestre de l'année scolaire, en fait, parce que bah, voilà, les programmes scolaires sont très détaillés, et telle année, il faut apprendre telle et telle chose. Donc parce que le contenu qu'il doit apprendre, c'est déterminé par son année de naissance, par le jour de la semaine, par le programme de ce moment-là, de cette journée-là, à cet endroit-là, c'est pas du tout fait en fonction de ses centres d'intérêt. Et en fait, ce fonctionnement-là fait que bah, ça fait une entrave à la curiosité, parce que l'enfant, il doit mettre de côté ce qui l'intéresse pour se concentrer ce qu'on lui donne à faire. Il doit mettre de côté sa motivation intrinsèque, c'est-à-dire ce que profondément ce qu'il a envie de faire pour l'envie de faire cette chose-là. Il doit mettre ça de côté et il doit se conformer à ce qu'on lui dit de faire à ce moment-là, quelle que soit son envie du moment. Et finalement, le résultat, c'est que bah, ça entrave l'élan d'apprentissage de l'enfant, puisque au lieu de pouvoir suivre sa curiosité, ou au lieu de pouvoir se passionner pour certaines choses, bah, il doit mettre tous ces élans-là de côté pour faire quelque chose qui ne l'intéresse pas forcément à ce moment-là. Le deuxième problème avec l'école, c'est qu'on va avoir une définition assez unique de la réussite, et on va valoriser que certains types de savoirs et de compétences. C'est-à-dire que, ben, pour réussir, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, c'est quoi la réussite? En fait, c'est réussir à l'école, sur des choses qui ont été déterminées par l'école, donc avoir une bonne note en français, en maths, en histoire géo. Bref, la réussite à l'école, c'est avoir des bons résultats scolaires dans ces matières-là. Et donc ça va finalement valoriser que certains types de compétences, et il y a plein d'autres compétences en fait que les enfants et les adolescents peuvent avoir mais qui sont pas du tout prises en compte et qui sont pas du tout valorisées dans le système scolaire. Et ça peut aussi faire en sorte qu'il y ait des élèves qui soient étiquetés en échec scolaire parce qu'ils n'ont pas des bonnes notes dans telle et telle matière, alors qu'en fait ils sont tout à fait compétents dans plein d'autres choses, j'en sais rien, des métiers, quelqu'un de plus manuel, plus artistique, ou alors des élèves qui mettent plus de temps à apprendre à lire, ou qui ont besoin de plus de temps pour savoir calculer, ou j'en sais rien, enfin voilà. S'il y a un décalage dans le rythme par rapport à l'apprentissage, ben voilà, tout de suite il y a une étiquette d'échec qui va être posée sur cet enfant, et c'est très difficile d'en sortir en fait. On le voit même avec toute la bonne intention des profs, avec toute la volonté d'accompagnement, nous on en voit des enfants qui sortent de là en gardant cette idée qu'ils sont en échec scolaire et que ça a un impact en fait sur la confiance en soi. Le troisième point que je voulais aborder, c'est l'absence de temps libre en fait, de temps disponible. Les élèves, ils ont un emploi du temps qui est trop rempli du matin au soir, plus les devoirs le soir, les devoirs le week-end, les devoirs les vacances. Et ils ont une telle pression en fait pour avoir des bons résultats scolaires qu'ils ne peuvent pas avoir l'espace disponible, l'espace mental disponible pour se poser des questions essentielles. qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et on le voit, il y a beaucoup d'adolescents qui, arrivés au bac, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas vraiment d'idée très claire sur comment ils veulent s'orienter, parce que ils n'ont même pas eu le temps de se poser ces questions, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment dommage, en fait, de ne pas leur laisser suffisamment de temps pour pas avoir trop de pression, pour déjà avoir le temps de se poser ces questions-là, puis avoir le temps de profiter, d'avoir un peu de temps libre, quoi. Le quatrième point, c'est la séparation en classe d'âge. C'est-à-dire que dans les écoles classiques, mais les élèves, ils sont classés en âge par... Enfin, ils ont des classes par année de naissance, c'est-à-dire qu'il y a CP, CE1, CE2, etc. Et en fait, ils sont dans une même classe avec d'autres élèves qui ont à peu près moins d'un an d'écart. Ils sont tous à peu près dans des problématiques et des compétences similaires, et ça favorise pas la coopération, en fait. J'imagine qu'on a tous vu, ou en tout cas la plupart d'entre nous, on a vu qu'est-ce qui se passe dans les réunions de famille, ou dans les mariages, ou enfin voilà, dans les grands rassemblements, où il y a de nombreux enfants d'âges différents. Et on voit que la plupart du temps, il y a des activités de groupe qui se forment, mais qui sont pas du tout régies par des différences d'âge, en fait. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui sont nés en 2012, qui jouent qu'avec ceux qui sont nés en 2011 et 2012. Ils forment des groupes d'âge différents, et on voit bien que finalement, les différents enfants des différents âges, ils vont avoir différents apports dans l'activité. Il y en a qui vont, par exemple, les plus âgés, ils vont pouvoir un petit peu plus se structurer, planifier, etc. Les plus jeunes, ils vont peut-être apporter un peu plus d'imagination. Chaque personne, en fonction de ses appétences, de ses facilités et de son âge, va pouvoir contribuer d'une manière différente au groupe. La séparation en classe d'âge, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge, parce que à quel moment, en dehors des classes scolaires, en dehors de l'école classique, on sépare les gens par tranche d'âge aussi précise? Dans le monde du travail, ça n'existe absolument pas, cette répartition en classe d'âge aussi stricte, et dans, par exemple, un environnement de travail, on a besoin d'avoir différents niveaux d'expérience, différents types de personnes, pour pouvoir justement, les plus âgés, ils peuvent expliquer, les plus expérimentés, ils peuvent expliquer aux moins expérimentés, les plus jeunes, ils apportent parfois des idées d'innovation, etc. Et donc, c'est un système de travail, où, je parle du travail, mais ça peut être aussi autre chose, mais quand il y a justement différents âges, c'est très bénéfique d'avoir vraiment ces différents âges. Et donc, c'est vraiment incompréhensible, c'est compréhensible. Pourquoi est-ce qu'on sépare les enfants en classe d'âge? C'est parce qu'en fait, on considère le fait d'apprendre, le fait d'être instruit, comme un système de production qu'on pourrait même dire classé d'industriel, c'est-à-dire qu'on découpe le savoir à donner comme une chaîne de production automobile, c'est-à-dire qu'à telle étape, il faut donner telle pièce, à telle étape, il faut donner telle pièce, à telle étape, il faut donner telle pièce. Et donc, pour qu'on puisse donner les pièces en masse, de l'enseignement en masse, il faut répartir les enfants en fonction de leur année de naissance, comme si, le savoir, ça s'inculquait comme une voiture qui se construit sur la chaîne de production, quoi. À telle étape, il y a ça, à telle étape, il y a ça, à telle étape, on peint l'aile droite en rouge, et après, on met le pchit de ce côté-là, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est très mécanique. Et on sait bien que l'esprit humain, que l'apprentissage, c'est pas aussi mécanique et aussi simple que ça. On peut pas réduire ça juste à une équation mathématique, à des statistiques. Donc la séparation en classe d'âge, elle s'explique en fait avec une conception de l'apprentissage comme une chaîne de montage. Mais ça enlève toute la richesse possible du mélange des âges, parce qu'on voit à quel point, quand les enfants et les adolescents peuvent être avec d'autres enfants et adolescents d'âges différents, on voit à quel point ça peut être hyper bénéfique, en fait. Le cinquième point, forcément, c'est la démocratie. Dans les écoles classiques, en fait, on veut apprendre la démocratie en l'enseignant, mais pas du tout en la faisant vivre. Et ça, je pense que c'est vraiment un des plus gros soucis de l'école, et j'ai l'impression que c'est presque... Il y a des œillères, en fait, chez les décideurs. C'est-à-dire que oui, certes, l'éducation morale et civique, c'est important et tout, mais comment est-ce qu'on peut espérer qu'un enfant devienne un adulte qui soit citoyen libre dans une société démocratique quand pendant 15 ans, il évolue dans un environnement autocratique où il n'a pas le droit de prendre de décision, on lui dit tout ce qu'il doit faire, à quoi il doit consacrer son temps, etc. Et dans lequel finalement il a aucune prise ou presque aucune prise sur décider du cadre, décider des règles, participer à... Enfin voilà, être un acteur avec un droit de parole et de décision sur la définition de la liberté, des règles qui vont régir le collectif, etc. Et donc, comme ils sont pas confrontés à ces prises de décision, à pouvoir participer aux règles et tout, c'est normal que ce soit si difficile d'exercer sa citoyenneté quand on n'a pas du tout pratiqué l'exercice de la citoyenneté durant toute sa scolarité. Certes, on a entendu parler de comment marche la démocratie et tout ça, mais il y a une telle différence entre avoir accès à la théorie et pouvoir faire l'expérience pratique de la démocratie. Le sixième et dernier point, c'est l'impossibilité de pouvoir développer son sens de l'initiative et une vraie autonomie dans l'école classique. Et ça découle de ce que j'ai déjà pu dire tout à l'heure dans l'épisode, c'est qu'on demande tellement peu aux élèves d'être aux commandes de leur propre parcours. On leur dit quoi faire pour apprendre un programme prédéterminé. Il n'y a quasiment aucune place pour qu'ils aient de vraies initiatives. Et donc forcément, ils ne peuvent pas pratiquer ce sens de l'initiative. Et quand je parle d'initiative, je ne parle pas des petits choix comme proposer, par exemple, tu peux choisir dans quel ordre tu vas voir les éléments du programme du trimestre. Je parle de choisir quoi faire de ces journées quand il n'y a rien d'imposé. Je parle de trouver les activités qui font sens pour soi, de pouvoir se fixer soi-même des objectifs et de pouvoir faire en sorte de concrétiser ces objectifs. Mais ça, c'est pas parmi un choix restreint. C'est pouvoir choisir délibérément ce qu'on veut faire, à quoi on veut se consacrer. Et c'est en pratiquant ça qu'on peut vraiment développer son autonomie. Le problème, c'est que quand on parle d'autonomie à propos des élèves, on pense souvent à la capacité des élèves à faire leur travail scolaire. Être autonome pour faire ses devoirs, pour réviser ses leçons, c'est être autonome en fait dans un cadre qui est très restreint. C'est faire des choses qu'on nous dit de faire, sans avoir trop besoin de pression explicite, on va dire. Et en fait, finalement, c'est quelque part se conformer aux demandes extérieures, intégrer suffisamment ces demandes extérieures pour pouvoir les faire sans trop rechigner. Mais plus tard, quand on est adulte, on doit avoir beaucoup plus d'initiatives personnelles. Par exemple, quand il faut chercher un logement ou un emploi. Il n'y a pas de guide tout tracé dans la vie d'adulte, en fait, contrairement à la série de consignes qu'il y a dans le contexte scolaire classique. Et donc, c'est vraiment problématique, en fait, que l'école classique, elle ne permette pas aux élèves de développer leur sens de l'initiative et leur vraie autonomie. Alors, pour reprendre, les principaux problèmes de l'école classique, c'est, premièrement, on ne prend pas en compte les centres d'intérêt des enfants. Ils doivent faire ce qu'on leur dit de faire, quel que soit leur centre d'intérêt du moment. Deuxième problème, c'est que l'école classique, elle donne une définition unique de la réussite. Il n'y a pas de possibilité pour chaque enfant de réussir là où il est bon. Troisième problème, c'est qu'il n'y a pas assez de temps libre, il n'y a pas assez d'espace mental. Les enfants et les adolescents, ils n'ont pas suffisamment le temps pour se questionner sur qu'est-ce qui fait sens pour eux. Le quatrième problème, c'est qu'il y a une séparation très stricte par classe d'âge, ce qui est quasiment jamais le cas dans la vie en dehors du contexte scolaire. Le cinquième problème, c'est que l'apprentissage de la démocratie, il est très théorique. Comment est-ce qu'on peut apprendre à devenir un citoyen libre dans une société démocratique quand on évolue dans un environnement qui est autocratique? Et le sixième problème, c'est l'impossibilité de développer son initiative, son autonomie, parce que c'est dans un cadre où l'élève il doit faire ce qu'on lui dit de faire quasiment tout au long de sa scolarité. Alors si on reprend tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait proposer alors? On pourrait proposer une école qui priorise d'abord les centres d'intérêt des enfants, c'est-à-dire qu'ils puissent développer leur passion en tout simplement en faisant ce qu'ils aiment faire, qu'ils puissent développer leur singularité, leur force, justement en faisant ce qu'ils aiment faire, en ayant suffisamment de liberté et de temps pour pouvoir se poser ces questions et pour pouvoir essayer des activités, puis arrêter, et puis voilà, profiter de leur enfance et de leur scolarité. Évidemment dans un environnement multi-âge, parce que c'est quand même génial de pouvoir être avec différentes personnes de différents âges, et on fera un épisode complet sur le multi-âge plus tard dans le podcast. Et puis forcément avoir une pratique réelle de la démocratie en fait, pouvoir être vraiment acteur de ses projets, des règles de l'école, pouvoir vraiment y participer. C'est une expérience fabuleuse qu'il faudrait pouvoir permettre à tous les enfants. Si cet épisode vous a plu et qu'il pourrait intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez vous abonner au podcast Enfin Libre sur l'application de podcast que vous utilisez pour recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode. Je vous invite à laisser votre avis sur les applications de podcast pour que d'autres personnes puissent aussi le découvrir. Et venez sur notre site internet, vous pourrez vous inscrire à la newsletter de l'école. Merci et à la prochaine fois !